un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Avec Karine Lelouette. L'histoire se passe le 21 mars 2002 au nord-est de l'Angleterre. Ce jour-là, John Darwin, 51 ans, est aperçu pagayant vers le large à bord de son canoë rouge, puis disparaît. Alerté par sa femme, la police finit par retrouver des restes de l'embarcation échouée sur le rivage. L'enquête conclut à une disparition en mer et John Darwin est officiellement déclaré mort en 2003. 4 ans plus tard, pourtant, l'homme se présente à l'accueil d'un poste de police londonien. À l'officier de garde, il déclare « Je crois que je suis une personne disparue », rapporte à l'époque la BBC. Il dit alors n'avoir aucun souvenir des dernières années passées. Jusqu'au jour où le Daily Mirror, un tabloïd britannique, publie une photo de lui datant de 2006. Il y apparaît tout sourire aux côtés de sa femme, au Panama. Le poteau rose est découvert. Criblé de dettes, John Darwin avait mis en scène sa disparition avec la complicité de sa femme pour lui permettre de toucher les 250 000 livres d'assurance vie. Il a vécu des années durant dans un appartement attenant à la maison familiale, retrouvant sa femme chaque soir grâce à une porte dérobée, avant de filer avec elle en Amérique centrale. Les deux époux écopent de 6 ans d'incarcération pour fraude et faux papiers, et à leur sortie de prison, ils divorcent. Aujourd'hui dans Les Pieds sur Terre, une toute autre histoire de mensonge racontée par Claudia Prolongeau.
Je m'appelle Marie Bosch, j'ai 38 ans et j'habite à Paris. Je suis enseignante dans le quartier de la Goutte d'Or depuis un peu plus de 10 ans. J'ai grandi à Strasbourg jusqu'à mes 28 ans. Et adolescente, j'étais plutôt rêveuse dans ma bulle, mais par contre, j'étais bien entourée. Enfin, j'avais des amis, je sortais. Et j'ai rencontré Marc en seconde, on est devenus copains. Il me faisait beaucoup rire, il avait beaucoup d'humour. Il était très charismatique. On s'est très vite mis à sortir en dehors des cours, on riait beaucoup ensemble. Et on a été amis pendant 5-6 ans, jusqu'à ce que on finisse par s'embrasser un soir et sortir ensemble. Quand on se met ensemble, moi je suis en deuxième année, je crois, de fac. Et lui avait raté son bac 2 fois, donc il l'a passé une 3e fois. Et après, il a fait une première année de fac d'éco, et ensuite il est allé en fac de droit. Donc on habite ensemble au bout de 2 ans. Du coup, on était assez jeunes, on avait 22-23. On est encore étudiants, donc on loue un tout petit appartement à Strasbourg pour s'installer, et on travaille à côté. Pour se le payer. Donc lui a continué ses études en droit et en master, il avait un stage en deuxième année de master. Et puis un soir, il me dit on m'a proposé un poste à Paris dans une boîte de prod de cinéma pour faire du droit de la propriété intellectuelle. Et moi, à ce moment-là, je suis déjà enseignante. J'enseigne dans une école à Strasbourg depuis 2 ans et très rapidement, en fait, on se dit que il faut qu'il y aille et que moi, je vais demander une mutation et je vais le suivre. Et c'est ce que je fais. Et je sens que la relation est assez différente de ce qu'on a vécu à Strasbourg. À Strasbourg, j'avais vraiment l'impression d'être dans une sorte de bulle dorée. On galérait, mais on avait un petit appart qu'on adorait, avec un petit jardin. On invitait tout le temps les copains. Il était très présent. On était très fusionnels, on faisait tout ensemble. Et puis, quand je l'ai rejoint à Paris, il bossait énormément, notamment de nuit aussi. Alors, il m'expliquait que c'était parce que rencontrer des réalisateurs, c'était compliqué la journée parce qu'ils étaient en tournage et que c'était plus simple de se voir la nuit. Puis donc je suis arrivée au début du mois de juillet dans l'appart qu'on a loué ensemble et je passe l'été toute seule et je me dis c'est le début, il a besoin de beaucoup travailler, de faire ses preuves, donc puis en plus il fait un métier qu'il adore, donc je prends sur moi, je me dis c'est pas grave. Les 2 premières années à Paris, ça continue. Moi, je commence à travailler, il est très peu là. Il fait une formation pour justement pouvoir plus facilement gravir les échelons. Donc il a une formation 2 soirs par semaine très tard. Donc en fait, je me retrouve beaucoup de soirs dans la semaine à manger toute seule. Alors il est là le week-end. Alors c'est vrai que le week-end, on fait pas mal de trucs ensemble. On profite de Paris, on découvre Paris ensemble. Mais la semaine, très peu présent, rentre très tard le soir, ne prévient pas. Donc je suis un peu frustrée de ça, mais je me dis bon, ça va passer. Et puis je l'aime, donc j'ai envie de rester. Et puis on finit par avoir envie de se marier. Donc on se marie, et puis dans la foulée, on achète un appartement. Comme c'est lui qui s'occupait beaucoup de tout ce qui était administratif, c'est lui qui était en contact avec la banque. Et donc c'est lui qui gérait la demande de prêt, etc. Et donc je le laissais faire. Et finalement, 2 mois avant qu'on doive signer chez le notaire et emménager, il me dit que la banque refuse le prêt. Donc je vais voir un premier courtier qui prend mon dossier, qui me dit oui c'est bon, vu vos salaires ça passe, c'est bon. Et puis qui me recontacte quelques jours après, on était fiché Banque de France. Donc je découvre ça. Je fais mon enquête, je découvre que c'est un impayé de Marc en fait, quand il est venu d'abord en premier à Paris. C'était pour un petit truc, donc en fait ça s'efface très vite. Je dépose le dossier avec fiche de paye, etc. Et ça passe. On signe chez le notaire et puis on fait notre demande de prêt, etc. Et voilà. Et donc on emménage, je crois que c'était au mois de septembre, un truc comme ça. On est hyper contents, l'appart nous plaît vachement, et puis on repeint tout l'appart, on refait le parquet. Et à ce moment-là, lui me parle d'avoir un enfant. Et puis c'est parti, et en 2 semaines, je tombe enceinte. Ça fait à ce moment-là même pas 1 an qu'on a l'appartement. Mais bon, je suis hyper contente, lui aussi. Et puis je me rends compte à nouveau que il est pas présent. Je me rends au cours de préparation à l'accouchement, il vient une fois. Sur les 9 séances, je crois. Et la fois où il vient, et c'est un peu comme ça qu'il était, c'est-à-dire quand il était là, il était vraiment là. Et puis cette séance-là, il était hyper présent, il a fait rire tout le monde, il s'est montré hyper présent avec moi. La sage-femme avait des cœurs dans les yeux quand elle le regardait. Et les autres fois, pas là. Mais voilà, son travail était important. Et puis à ce moment-là, en plus, le chef de sa boîte était décédé. Et donc, on lui propose de refaire une formation pour prendre son poste. Et donc, voilà, très occupé et tout. Mais d'autres actes me montrent aussi que quand même, je ne l'ai pas perdu. Il est là, il a vraiment envie. Je fouille par hasard sur son téléphone. Enfin, c'est vraiment pas un truc que je fais d'habitude. Mais là, je sais plus, je cherchais un truc et j'avais son téléphone. Et je vois ses dernières recherches Google. Et je vois qu'il avait fait des recherches sur comment faire pour aider son conjoint lors de la poussée, pour que ce soit le plus possible sans douleur. Enfin, je me dis, en fait, il me le dit pas. Mais il est inquiet de l'accouchement, il a pris du poids, donc il raconte à tout le monde qu'il fait une grossesse nerveuse parce qu'il est stressé pour moi. Et puis je vais accoucher, et là effectivement, extrêmement présent, ça a duré 7 heures, il me comptait les secondes entre chaque contraction pour me préparer. Enfin, voilà. Donc Jeanne naît le 21 octobre 2016. On est tous les deux très heureux quand elle naît, et puis je suis fan tout de suite, je l'ai aimée tout de suite. Le retour à la maison se passe bien, on s'en occupe tous les deux vraiment, la nuit il se lave avec moi, on vit vraiment le truc à trois, et puis il reprend le travail au bout de 3 semaines, et il reprend des horaires où il rentre assez tard, et en fait quand il rentre le soir elle dort. Et puis arrive Noël, et là on rentre pour la première fois en Alsace, voir nos familles et présenter notre fille. Les vacances se passent super bien, on est hyper fiers de la montrer à tout le monde. Ça se passe vraiment très bien, quoi. Alors, le 2 janvier, on rentre à Paris, on a fêté Nouvel An en Alsace avec nos copains. Et on prend le train pour rentrer à Paris. On arrive en fin d'après-midi. Il commence à faire nuit, le taxi nous ramène et là, on passe devant notre immeuble. Et je vois la lumière de la cuisine allumée. Je trouve ça bizarre. On arrive devant la porte de l'appartement. Et en fait, elle ne peut plus s'ouvrir. Les serrures ont été changées. Je me dis, Ben, pendant notre absence, des gens sont venus squatter notre appart, ont changé la serrure. Voilà, donc j'imagine l'horreur des gens qui sont dedans, qui ont viré toutes nos affaires, qui ont changé les clés. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc je vais sonner à la voisine du dessus. Je commence par lui raconter ça. Je lui dis, ben voilà, on ne peut plus rentrer chez nous. Quelqu'un squatte notre appartement. Et puis elle me dit, ben non, votre appartement a été vendu aux enchères. Et puis elle commence à m'expliquer, elle me dit « mais ça fait des mois qu'on vous envoie des courriers pour vous inviter au conseil de copropriété, vous ne venez pas ». Du coup je dis « mais je comprends pas, j'ai reçu aucun courrier ». Et elle me dit « bah si, on parle de vous depuis des mois, votre appartement a été vendu aux enchères, il y a plusieurs mois ». Et là c'est certainement le nouveau propriétaire qui a réquisitionné l'appartement en votre absence. Donc je m'effondre, je comprends pas ce qui se passe, je vais voir Marc, je lui raconte ce que me dit la voisine, il comprend pas non plus, il devient fou, il tape contre la porte. Il appelle les flics, je crois, et il y a deux policiers à ce moment-là qui viennent, et on leur explique que bah, c'est chez nous, quelqu'un a changé la serrure, on peut plus rentrer chez nous. Et donc les policiers nous disent, bah, venez le lendemain matin au commissariat, là on peut rien faire de toute façon, donc vous venez demain, on essaye de voir ce qui s'est passé. Il est assez tard le soir, et donc voilà, il faut qu'on trouve un endroit où dormir. J'appelle les copains pour voir qui peut nous héberger. Et puis je finis par tomber sur une amie qui me dit « Ben oui, venez dormir à la maison. On va essayer de comprendre ensemble ce qui se passe. Venez dormir. » Donc on prend notre seule valise qu'on avait pour les vacances de Noël. On n'a plus aucune autre affaire. Et puis on va chez elle. Sur le coup, c'est le soir tard. Donc il n'y a pas grand-chose à faire à part pleurer, être paniqué. Et puis je ne comprends pas du tout ce qui a pu se passer, puisque on paye notre prêt tous les mois à la banque. Effectivement, c'est pas moi qui m'occupe des comptes, mais je veux quand même avoir un regard là-dessus, donc régulièrement, je demande à Marc des extraits bancaires pour que je puisse au moins suivre où on en est, et je vois bien que le prêt passe tous les mois, donc je comprends pas comment c'est possible que notre appart soit vendu aux enchères sans qu'on soit averti alors qu'on paye. Elle me dit, j'ai une tante qui est avocate, on va l'appeler demain, enfin vous inquiétez pas, vous allez voir les flics, on va trouver ce qui s'est passé, on va vous aider. Donc bon, on finit par aller se coucher. Le lendemain, Marc prévient qu'il ne viendra pas travailler. Moi, à ce moment-là, je suis encore en congé maternité. Je lui dis, il faut qu'on appelle la banque qui nous a prêté l'argent pour comprendre. Tu mets le haut-parleur, on le fait ensemble. Et donc, il l'appelle. Et là, il tombe sur une dame qui lui dit « Mais écoutez, monsieur Marc, on s'est déjà rencontrés. » Et donc là, Marc dit « Mais qu'est-ce que vous racontez ? C'est n'importe quoi. » Et donc, il commence à raconter que certainement, on lui a volé son identité, mais que non, il ne l'a jamais rencontré, cette dame. Voilà. Et donc, à ce moment-là, arrive la piste de « On lui a volé son identité. » Et mon ami prend rendez-vous chez sa tante avocate. Donc j'y vais avec les derniers extraits bancaires que Marc me donne. Et puis elle me dit, oui, effectivement, vous avez raison, le prêt apparaît. Donc c'est pas possible, là, il y a une magouille, il y a un truc. Donc moi, je vous suis le dossier. Vous inquiétez pas, vous allez gagner. Vous avez été, usurpé, manipulé. Mais c'est impossible qu'on vende votre appart aux enchères. Vous payez, donc c'est pas possible. Ok, donc je sors un peu rassurée. Une amie m'appelle et me dit « Écoute, c'est quand même bizarre, je suis désolée, j'ai un peu fouillé, je suis allée sur internet et je suis tombée sur un site d'huissier où... » Et elle me dit « Je tombe sur le document de la vente aux enchères de ton appartement avec des noms d'huissier. » Donc elle me raconte qu'elle a appelé un huissier et qu'au téléphone, l'huissier lui aurait dit qu'il connaissait Marc et qu'il l'avait déjà rencontré. Donc là, je commence à me dire, j'espère qu'il n'y est pour rien dans tout ça. Mais quand même, je commence à douter. Et donc, je l'appelle. Donc là, évidemment, il nie. Et puis, il nie en me disant, mais là, de toute façon, j'ai pas le temps, j'ai un rendez-vous professionnel. On en parle plus tard. Mais non, bien sûr que non, j'ai jamais rencontré d'huissier. Je raccroche. Donc, j'appelle la banque et je tombe sur notre conseiller. Et je lui dis, ben voilà, mon mari vous a appelé plusieurs fois cette semaine concernant cette vente aux enchères d'appartements. Il me dit, ah bon, comment ça votre mari m'a appelé? Je dis, bah oui, enfin, il vous a appelé toute la semaine, vous êtes censé lui envoyer tous nos extraits bancaires. Il me dit, mais pas du tout, enfin, il m'a pas du tout appelé, je vois vraiment pas de quoi vous parler. Donc là, je crois que je commence à être un peu en sueur, à trembler. Et puis, il me dit qu'il regarde les extraits sur son ordinateur et qu'il ne voit pas de traces de ce prêt. Donc là, je lui dis, c'est pas possible, moi j'ai les extraits sous les yeux papier, le prêt à Paris. Et il me dit, envoyez-moi une capture d'écran de l'extrait, envoyez-le-moi, on va comparer. Donc je lui envoie. Et puis là, il me dit, alors c'est quasiment les mêmes, sauf qu'il y a deux lignes qui n'apparaissent pas sur mon écran à moi. C'est la ligne du prêt et la ligne du salaire de votre mari. Et puis là, je lui dis, c'est pas possible, pourquoi ça apparaît sur mon extrait? Et il me dit, oui, mais un extrait, ça se trafique. Et là, je crois que dans ma tête, ça fait un tour, je comprends. Qu'il n'y a pas de prêt, il n'y a rien. Il m'a fait des faux extraits. Et qu'en fait, c'est de notre faute si l'appartement a été vendu. À ce moment-là, mon amie arrive, elle rentre chez elle. Je m'effondre, je lui raconte et... Elle appelle pour moi la boîte dans laquelle il était censé travailler. Et là, elle apprend au téléphone qu'en fait, il n'y a aucune trace de marque dans cette boîte. Je comprends qu'en fait, il ne travaille pas, il m'a menti, et il m'a fait croire qu'il avait un salaire, et qu'en fait, pour masquer tout ça, il fait des fausses fiches de paye, des faux avis d'imposition, mais ce qui est quand même complètement fou, c'est que c'est passé. Donc je l'appelle, je pense, dans la soirée, je l'ai appelé, je pense, 200 fois. Évidemment, il ne répond pas. Et il ne répondra jamais, et je ne le verrai plus jamais. Je me dis, merde, j'ai plus rien, j'ai plus d'appart, je suis toute seule. Et j'ai un bébé. Et mon amie qui, à ce moment-là, est, elle aussi, évidemment, complètement dépassée par ce qui se passe, se met à appeler tout le monde. Et donc, au fur et à mesure de la soirée, les copains arrivent, complètement sidérés, ne sachant pas trop quoi faire. Donc, j'ai l'impression que je suis dans un coin de la pièce à boire, fumer, qu'on me parle, mais que je comprends rien à ce qu'on me dit. Je suis dans un état de sidération totale. Tout le monde commence à avoir peur qu'ils viennent nous faire du mal, puisque ils savaient où je logeais à ce moment-là. Moi, je me dis forcément qu'il est hyper mal, qu'il n'ose pas revenir et qu'il se dit que tout est foutu et qu'il va se tuer. Et j'ai peur pour lui. Mais mon entourage se dit que tout est possible. Mes amis décident pour moi qu'on sera logés ailleurs, chez un autre ami, Jamel. Et comme on travaille ensemble, c'est lui aussi qui prévient rapidement après l'école en expliquant ce qui se passe. Et ils comprennent assez vite que je reviendrai pas de sitôt pour travailler. Donc Jamel se charge d'appeler les gens. Donc mes parents sont donc au courant. Ils me disent on prend la voiture, on arrive tout de suite. Et ils arrivent tôt le lendemain matin chez Jamel. Et on va porter plainte à la police. Et puis, en gros, je me rends compte que personne ne porte plainte. Et que moi, je suis dans l'incapacité de le faire. Parce que je découvre que le vol entre époux n'existe pas. Et que, en fait, on a le droit de voler son conjoint, on a le droit de faire des faux à son conjoint. Donc, en fait, personne ne le cherche. Je vais à la banque, consulter mes comptes. Là, je découvre qu'il a vidé tous les comptes. Et en plus, il vide les comptes. Enfin, là, j'ai vraiment, à ce moment-là, plus rien. C'est-à-dire, j'ai 32 ans, j'ai un bébé, j'ai plus d'appartement, j'ai plus d'affaires, j'ai plus un euro sur mes comptes, je n'ai plus rien. Et on finit par trouver la trace du nouveau propriétaire. Qui me raconte que Marc l'avait rencontré plusieurs fois au moment de la vente aux enchères, qui lui avait dit qu'on était morte avec ma fille, et que c'est pour ça que pour l'instant il pouvait pas sortir de l'appartement. Parce qu'il était sous le choc, parce que voilà, on avait eu visiblement un terrible accident. Et puis il me dit, voyant que ça n'avançait pas, j'ai vu qu'il y avait personne pendant les vacances de Noël, j'en ai profité pour vider l'appartement, et j'ai mis toutes les affaires dans un box. Prenez le temps que vous voulez. Pendant plusieurs mois, je les laisse dans le box, je paye le box, donc vous n'avez pas à vous soucier de vos affaires. Donc je me dis, c'est déjà ça, j'ai pas tout perdu. Voilà, j'ai mes meubles, j'ai mes affaires personnelles, j'ai mes souvenirs, voilà. je découvre aussi que le fait que l'appartement soit vendu aux enchères, il est forcément vendu à un prix très très bas. Et que la banque veut le complément. Donc je découvre en fait que y a une dette de 120 000 euros. J'appelle l'organisme de prêt. Je raconte ce qui se passe avec mon mari. Je raconte qu'il est parti, que j'ai aucune nouvelle. Et elle me dit, de toute façon, vous êtes solidaire. Donc en fait, on va se retourner vers vous. Mes parents disent, en fait, il n'y a pas de raison. On va contacter la belle famille. Finalement, les grands-parents, après plusieurs discussions, me disent, c'est bon, on va la prendre en charge, on va payer. Un de leurs fils, qui est avocat, s'arrange avec l'organisme de prêt pour, même si on est marié avec Marc, séparer notre dette en deux. Et les grands-parents payent ma part de dette. Et puis, je rentre du coup chez mes parents au bout de plusieurs jours. Et pendant une semaine, je suis un zombie. Je me lave pas, je pleure tout le temps. J'arrive pas, quoi. Je craque tout le temps, j'arrive pas à manger. Voilà, on prend rendez-vous avec ma mère chez une avocate et chez une psy, que je vois deux fois par semaine. Donc voilà, donc petit à petit, je me fais un peu violence et je reprends un peu forme humaine. Deux, trois semaines passent et jusque-là, c'est mes parents qui s'occupaient de ma fille. Et la seule chose qu'ils faisaient, pour pas que je perde le lien, c'est que le matin, quand je me réveillais, ils m'apportaient ma fille dans le lit. Et on se faisait des câlins. Mais le reste, j'arrivais pas à lui donner à manger, j'arrivais pas à faire les nuits, j'y arrivais pas. Et un soir, ma mère va la changer. Et puis, je vais la voir et je dis, non, là, je vais le faire. Je le fais. Et je repense à une parole qu'avait eue Jamel quand j'étais encore chez lui, qui m'avait dit « faut que tu lui parles, faut que tu lui dises ce qui se passe ». Et dans ma tête, je me disais « mais il est complètement con, elle a 2 mois, elle va rien comprendre, qu'est-ce que tu veux que je lui dise ?» Puis il avait un peu insisté, il m'a dit « si, écoute, vraiment fais-moi confiance, il faut que tu lui dises ». Donc je la prends, c'était pour aller se coucher, donc je la porte dans sa chambre, je la berce un peu et je lui dis voilà ce qui se passe, papa est parti, mais moi je suis là, et je t'aime, et on va y arriver, je t'aide et tu m'aides. On fait ça à deux, et j'ai pris l'habitude de très vite lui parler. Et je crois que ça l'a rassuré, et moi aussi ça m'a beaucoup aidé de lui parler, qu'on ait une complicité du coup très forte qui naisse de tout ça. Et puis, quand elle a commencé à faire ses premiers sourires, je me suis dit, mais en fait, elle peut pas me voir tout le temps triste. Il faut que je trouve l'énergie pour lui sourire, pour la faire rire. Donc j'ai assez vite réussi à prendre sur moi et à être une maman, quoi. À faire des balades, jouer avec elle, lui faire des petites blagues, lui faire des câlins. Et puis finalement, d'avoir créé cette complicité très forte a fait que je me suis raccrochée à quelque chose de beau, en fait. J'ai passé 8 mois avec Jeanne chez mes parents avant de repartir m'installer à Paris. Puisque en fait, je reprends le travail au mois de septembre. Entre-temps, j'ai trouvé un appartement, alors je me rachète tout. Je ne veux rien garder de ma vie d'avant. Et puis la vie reprend, je reprends le travail. Et voilà, j'essaie de continuer à chercher des réponses et de comprendre où a commencé le mensonge. Et en cherchant, je découvre, en arrivant à Paris, qu'il a travaillé dans un casino, d'où le fait qu'en fait, il travaillait très tard la nuit. Je tombe sur des fiches de paye, et ça dure 1 an, je crois. Et après, rien. Donc, il ne travaille pas pendant, je crois, 6 ans. Je retrouve des courriers de Pôle emploi indiquant qu'il se rend même pas au rendez-vous, et qu'en fait, il touche même pas les aides, parce qu'il cherche pas d'emploi, voilà. Et je me rends compte aussi qu'en fait, il a pas du tout validé son master de droit. J'ai un appel de sa mère qui me dit qu'elle n'a pas trouvé trace de son bac. Je réussis à pirater sa boîte mail. Je découvre de nombreux prêts à la consommation, énormément de factures impayées. Donc, tout ça va s'ajouter à la dette. Et ça, effectivement, c'est moi en partie qui vais devoir régler la plupart des dettes, impôts, électricité, etc. Donc je vois plein de courriers de ce type-là. Je vois aussi pas mal d'abonnements, des jeux en ligne. Et je vois qu'ils continuent à télécharger Walking Dead, c'est-à-dire une série qu'on regardait ensemble. Ils continuent une série qu'on avait commencé ensemble. Alors déjà, je me dis, en fait, c'est comme si il s'était rien passé pour lui, c'est-à-dire que moi, je n'ai jamais pu la continuer, cette série, en fait. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, il réfléchit pas comme un être sensé, et surtout comme je l'avais imaginé, c'est-à-dire qu'en fait, il est pas du tout au fond du trou, en train de se demander s'il va se tirer une balle ou pas. En fait, il est en train de regarder Walking Dead. Et au bout d'un moment, je finis par me dire, en fait, je vais arrêter de chercher, parce que ça sera sans fin, et que ça va me rendre folle. Après, du coup, j'engage aussi une procédure de divorce. Je finis par pouvoir divorcer de lui alors qu'il est absent. Vu que ça fait des mois qu'il revient pas, là, on est, je sais pas, 8 mois après, j'ai aucune nouvelle. Les seules nouvelles que j'ai, c'est par un de nos amis communs que Marc a appelé pour lui dire que j'étais la femme de sa vie, qu'il aimait Jeanne, mais que, bon, bah, il allait faire reset, quoi. C'était notre vie, il passe à autre chose. Donc j'apprends ça. Donc là, je me projette dans l'idée que, ben, en fait, il ne reviendra pas et que je vais élever ma fille toute seule. Très très vite, j'ai le besoin d'écrire. Je veux raconter les moments fort et improbable de tout ce qui m'arrive là. Et j'ai envie de raconter tout ça avec autodérision, sachant que je lis beaucoup de BD. Je sais pas, je pense assez vite au dessin. Et je me mets à dessiner des planches de BD. Je mets en scène notre vie parisienne. Et je mets toutes mes émotions comme ça à nu, mais voilà, avec distance et humour. Et je me rends compte que ça me fait beaucoup de bien et que le dessin m'apporte un plaisir vraiment très fort. Et puis, il se trouve que par hasard, je rencontre un libraire, et puis le mois d'après, je rencontre un éditeur, et je leur montre, et je vois qu'ils sont hyper enthousiastes, et qu'ils me disent, faut que t'en fasses quelque chose, quoi. Et là, je me dis, allez, mais si je le fais, on verra, quoi. J'envoie mon projet, et j'ai un éditeur qui m'appelle, et qui me dit, j'aime beaucoup ce que vous avez fait, j'aimerais qu'on s'appelle, et puis, c'est parti, je signe un contrat, et elle est publiée au mois d'octobre 2022. Et en fait, je peux passer à autre chose. Je me dis pas que j'ai vécu une histoire d'amour de 11 ans que sur un mensonge. Il y a des choses qu'on a vécues qui étaient vraiment vraies. Enfin, et c'est pas possible que ça s'était menti. Donc oui, il m'a menti sur tout ce qui concernait sa vie professionnelle, ce qu'il faisait pendant la journée, sur l'argent. Il m'a volé, il nous a laissé sur le trottoir avec ma fille de 2 mois. Sans se soucier de ce qui allait nous arriver. Mais dans ce qu'on a vécu, il y a des choses qui étaient belles et je les garde quand même en mémoire.
C'était une émission de Claudia Prolongeau réalisée par Emmanuel Geoffroy. Sachez qu'après le divorce, Marie a obtenu l'exercice exclusif de l'autorité parentale. Merci à Marie Bosch qui raconte cette histoire dans L'Imposture, une BD publiée aux éditions Les Enfants Rouges. Merci aussi à Nathalie Meulmans. L'attachée de production des Pieds sur Terre, c'est Céline Paris et Flavie Champion, notre stagiaire.